La minute du CDAD, le Conseil départemental de l'accès aux droits de la Lozère.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la minute du CDAD sur 48FM du Conseil départemental de l'accès aux droits de la Lozère avec Thomas qui m'accompagne. Salut Thomas.
Salut.
Alors aujourd'hui, nous allons parler du thème de la prochaine justice littéraire qui aura lieu le mardi 3 mars, ce mardi 3 mars. Et c'est un thème malheureusement qui reste d'actualité, c'est la dictature.
Donc ouais, on va parler de la dictature, cette notion qui fait peur, qui nous ramène à un passé sombre dont on se sent plus ou moins protégé en France.
Alors en réalité, la dictature c'est quoi? Comment on pourrait la définir?
Alors elle est entre autres définie comme un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exerce sans contrôle de façon autoritaire.
Alors en France, on n'y est pas, hein. Le système de séparation des pouvoirs finalement nous protège de ce régime politique dictatorial.
En effet, le système de la séparation des pouvoirs empêche qu'un seul individu ou groupe détienne tous les pouvoirs. La France est également ce qu'on appelle un état de droit, ce qui veut dire que l'État lui-même est soumis à la loi. En plus, le pays est protégé par la Constitution et le Conseil constitutionnel qui en est le gardien. Donc en théorie, la France ne pourrait donc pas basculer dans un régime dictatorial tel qu'on l'entend.
Donc quelles sont les dictatures? Est-ce qu'on pourrait donner des exemples de dictatures qu'a connues l'Europe à travers le temps?
On peut citer parmi les grands dictateurs du XXe siècle Adolf Hitler en Allemagne, Benito Mussolini en Italie, Francisco Franco en Espagne et Staline en Union soviétique. On dit que la Biélorussie est souvent considérée comme la dernière dictature en Europe.
Alors comment des pays aussi proches de la France ont pu sombrer dans des dictatures?
Les dictatures, elles se construisent dans des contextes de crise économique, politique ou sociale. Elles suivent plusieurs étapes pour s'établir durablement. Elles apparaissent donc dans un moment d'instabilité nationale, l'après-guerre, des fortes crises économiques. Ensuite, elles montent en puissance. Un parti extrémiste développe une propagande forte basée sur la restauration de l'ordre et la prospérité. La violence à l'encontre des opposants politiques commence à créer un climat de peur. Des rhétoriques anti-système tentent de décrédibiliser le pouvoir en place. Ensuite, la prise de pouvoir, qui se fait par un coup d'État ou par la voie légale, la démocratie est ensuite supprimée. Et on trouve la consolidation. Une fois au pouvoir, le dictateur élimine les opposants, supprime des libertés individuelles, contrôle les médias et met en place des politiques de surveillance de la population. L'histoire, elle nous apprend que tous les régimes peuvent passer sous la coupe dictatoriale. Des pays démocratiques comme l'Italie ou des régimes monarchiques comme l'Espagne.
Alors est-ce qu'on peut s'attarder justement sur un de ces régimes pour en savoir plus?
Ouais, moi j'ai choisi qu'on s'attarde un peu sur le régime dictatorial espagnol de Francisco Franco. Donc le franquisme, ça a duré en Espagne de 1939 à 1975. Il s'est installé suite à la guerre civile espagnole qui a duré de 1936 à 1939. En premier, il y a eu un coup d'état militaire qui est mené le 17 juillet 1936 par des généraux conservateurs contre le gouvernement de gauche, légalement élu quelques jours avant. Le coup d'état échoue, le pays est donc divisé entre les nationalistes et les républicains. La guerre civile commence. Franco prend rapidement la tête du parti nationaliste et reçoit de l'aide étrangère, notamment de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. La guerre civile prend fin en 1939 et Franco devient le seul et unique dirigeant du pays. L'Espagne bascule dans un régime dictatorial marqué par trois piliers, l'armée, l'Église et le parti. Le régime ne tolère aucune opposition, la répression est donc maintenue, voire renforcée. Des camps de concentration sont construits dans le pays, dans lesquels sont enfermés opposants politiques et personnes considérées comme déviantes. Pendant quelques temps, le pays bascule dans une autarcie économique et un isolement international. Entre 1950 et 1960, le pays réintègre la scène internationale et connaît une croissance économique rapide. En 1969, Franco désigne officiellement Juan Carlos de Bourbon, descendant des rois espagnols, comme successeur. Franco meurt en 1975, après des années de maladie. La monarchie est officiellement rétablie en Espagne.
Et du coup, qu'en est-il en Espagne 50 ans après la mort de Franco?
L'Espagne, elle est évidemment encore marquée par le franquisme, qui crée toujours de nouvelles polémiques malgré sa disparition depuis un demi-siècle. Par exemple, on peut aborder le cas de la Valle de los Caídos, en français, la vallée de ceux qui sont tombés. C'est un lieu qui est basé à 50 km de Madrid, au sommet duquel siège une basilique creusée dans la roche, surmontée de la plus grosse croix du monde, qui donne l'impression d'être supportée par 8 immenses statues de pierre, qui représentent chacune les 4 valeurs cardinales et 4 évangélistes. Cet endroit, il a été érigé par Franco dans le but de devenir un mémoriel pour les nationalistes tombés pendant la guerre civile. C'est un monument construit à la gloire du franquisme et de Franco lui-même. Ce dernier, en recherche d'unité nationale, ouvrira le mausolée à tous les morts nationalistes comme républicains, à condition qu'ils soient baptisés. C'est donc environ 35 000 personnes qui gisent dans la crypte du monument. Ce lieu, c'est le fondement de polémiques régulières pour différentes raisons. La première, c'est que le centre de la basilique, il abritait le corps de José Antonio Primero de Rivera, qui était l'ancien dictateur espagnol, et de Franco lui-même. Ce dernier, il a été inhumé et enterré dans un cimetière de Madrid en 2019. Avant son inhumation, l'endroit s'était devenu un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du franquisme et de l'extrême droite espagnole. Ensuite, le monument il a été construit par environ 20 000 prisonniers politiques condamnés aux travaux forcés, dont certains qui sont morts sur le lieu ou des suites de blessures. Et enfin, il y a de nombreuses autres polémiques autour de l'utilité du maintien de ce lieu, de son nom, de son utilité historique et pédagogique qui continue de paraître régulièrement en Espagne.
Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cette période. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous présenter pendant cette soirée de justice littéraire ?
Et nous, on a choisi de parler entre autres du siècle des dictateurs d'Olivier Guez, de Pas pleurer de Lydie Salbaré et de La vague de Todd Strasser. On a aussi choisi d'aborder quelques films, dont un documentaire qui s'appelle El silencio de otros de Almudena Caracedo et Le dernier roi d'Écosse de Kevin MacDonald.
Voilà, et vous aussi, vous pourrez aller poursuivre la discussion, échanger autour de la littérature et la justice ce mardi 3 mars à partir de 19h à la Livrerie Amande, donc pour cette prochaine justice littéraire qui est sur le thème des dictateurs.